Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM.
J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme
ça. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête.
Bonjour et bienvenue à tous. On reprend Delta Sport aujourd'hui. On est le vendredi 12 septembre et je suis avec Clément.
Salut!
C'est moi, Mamadou, aujourd'hui qui vous présente parce que Yanis nous a quittés. Il a changé de lycée.
Malheureusement.
Lola, Marine et Marilou sont passées en études supérieures. Donc elles ne seront plus là. Donc pour l'instant, on n'est que deux, Mamadou et Clément. Et j'espère qu'on aura des nouveaux membres très prochainement.
Exactement.
Alors, programme du jour, on va commencer avec. Avec un récapitulatif des matchs de la Coupe du Monde des clubs, puis on enchaînera sur le tennis, les qualifs pour la Coupe du Monde normale, la Formule 1 et enfin le Tour de France. Donc aujourd'hui, c'est un peu un récapitulatif des grands événements de l'été.
C'est ça.
Et puis la semaine prochaine, on reprendra les programmes normaux.
Ça, notamment avec la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Liga, tout ça. Donc,
ça va être magnifique.
Extraordinaire là, cette année, ça va être bien.
Allez, c'est parti. On commence avec la Coupe du Monde des clubs. Grande nouveauté de cet été 2025, la Coupe du Monde des clubs a été remodelée pour une version plus compétitive, plus lucrative, plus intéressante. Elle a eu lieu en juin-juillet. C'est une compétition assez intéressante qui a débouché sur une victoire éclatante de Chelsea, 3-0 face au PSG.
Qui l'aurait imaginé en vrai ? Parce que Chelsea, on pensait peut-être à... Bah ça, le Paris vraiment, qui était comme ils avaient gagné avec des champions, on s'attendait tous à ce qu'ils allaient gagner. Le Real, peut-être qu'ils allaient revenir avec Xabi Alonso. C'était là où Xabi Alonso a commencé ses premiers matchs avec le Real.
Match intéressant pour les débuts du Real Madrid avec Xabi Alonso. Ils ont enchaîné 3 victoires d'affilée, je crois, 4. Mm. Et puis après, ils sont tombés sur un adversaire beaucoup trop fort, le PSG. Exactement. Défaite 4-0. Ça fait mal, mais voilà. C'est comme ça.
Et avant, je m'en souviens plus, le format de la compétition, avant, c'était juste quart, demi-finale.
C'est ça, avant, c'était demi et finale, et on appelait ça la Coupe intercontinentale. Donc, on prenait les vainqueurs des Ligues des Champions de chaque continent. Et donc.
C'était direct demi-finale.
Ouais. Et pour le coup, le vainqueur de la Ligue des Champions était avantagé parce qu'il était directement en finale. Donc, par exemple, le Real Madrid, l'année dernière, et ils ont direct fait la finale, et puis ils ont gagné 3-0 contre Pachuca.
Ok, voilà. Ah oui, parce que, et après les autres clubs qui justement. Alors c'est quoi ? Il y a Europe,
Asie,
Amérique.
Ouais,
Asie,
Amérique et Afrique. Afrique, ouais,
exactement. Ouais, 4, ok. Mais justement, c'est déjà que avec des champions, bah là, en fait, on va en parler, mais on va voir que les clubs européens, là, ils ont tout écrasé sur cette compétition, la Coupe du Monde des clubs. C'était...
Ouais, après, on a quand même eu des petites surprises, je trouve. On a eu l'élimination de Manchester City 4-3 face à Al Hilal. J'ai vu le match. C'était très, très serré. Hein.
4 buts à 3. Ça, Al Hilal aussi qu'on s'attendait. Enfin, depuis le début, on le dit, hein, depuis que l'Arabie Saoudite devient attractif, on dit, bon, de toute façon, le niveau à l'Arabie Saoudite, il est vraiment pas dingue.
Ouais.
Mais là.
Franchement, ça augmente. Hein.
C'est ça, ça peut peut-être éclairer un peu, mettre de la lumière un peu sur l'Arabie Saoudite. Bon, est-ce que ça, c'est bien ? Ça, c'est une autre question, ça, c'est notre débat. Mais au moins, Al Hilal, là, qui fait grosse performance contre City 4-3, c'est.
Ouais, peut-être que dans quelques années, Ronaldo a raison en disant que le championnat arabe est dans le top 5 au monde. Voilà, peut-être,
après,
peut-être.
Après. Déjà, pour moi, il concurrence même pas celui du Portugal et des Pays-Bas.
Ouais, je pense qu'il est plutôt au top 15-20.
Ouais, c'est ça, exactement. Après, c'est un bon championnat parce que, il y a des bons joueurs, mais. Après, ce qu'on disait au début, genre là où, au début, quand le championnat saoudien a commencé à faire parler, il y avait que les vieux joueurs. Maintenant, il y a même des jeunes joueurs.
Il y a des jeunes,
pour des gros salaires qui viennent. Donc,
Alors, en termes de gros matchs, on a eu quoi d'autre ? On a eu. Les demi-finales PSG et Bayern Munich, avec notamment un double carton rouge pour le PSG. Donc, c'était Pacho et Lucas Hernandez.
Exactement.
Et puis, je crois que c'était pas mal. On a aussi les huitièmes de finale, les retrouvailles entre Messi et le PSG.
C'est ça, exactement, ce que j'allais dire aussi.
Très entendu.
C'est ça. Bon, après, ils sont vite fait corriger l'Inter Miami 5-0, il me semble.
4-0.
C'est ça. Donc, ils sont vite fait corriger. Mais ça faisait plaisir à voir, on va dire. C'était drôle.
Ouais. Alors, en termes de lauréat pour la compétition, le meilleur joueur, c'était Cole Palmer, évidemment. Avec son doublé en finale, forcément, ça joue beaucoup. Le meilleur gardien, c'était aussi un joueur de Chelsea, Robert Sanchez. Mm. Et le meilleur jeune, du coup, Désiré Doué.
Ouais. Mais c'est vrai, on peut en parler, mais Chelsea, franchement, on les attendait vraiment pas là. Et en finale, ils ont vraiment écrasé le PSG.
Oui,
parce
vraiment.
Parce qu'en plus, on les voyait tous, le PSG, qu'ils allaient gagner, parce qu'ils étaient tellement ils forts étaient, dans le
ouais,
jeu et tout.
Trop sûr d'eux, ouais.
C'est ça, exactement. Par exemple, je m'en souviens, ils ont joué contre le Real en demi-finale, c'est ça, le ouais. PSG. Ils les ont écrasés. Enfin, ouais. Il n'y avait pas des bons. On s'est dit, bon, contre Chelsea, voilà, c'est fini. Et Chelsea, finalement, les a mangés. Donc, moi, ça, j'ai regardé le match. C'est le seul match de la compétition que j'ai regardé. Sinon, ah j'ai ouais regardé aucun match.
Moi, j'en ai vu plein.
Ah ouais, ouais. C'était ta hype.
T'aimais en vrai, moi, j'aimais bien. Au début, j'étais assez sceptique. Et au bout de la deuxième, troisième journée, vers la fin des poules, j'ai commencé à vraiment à m'y intéresser.
Ouais.
C'était vraiment bien.
Bah, en fait, surtout, ce qui est... après, le problème d'organisation, c'est qu'ils l'ont fait aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est pas là où il y a la plus grosse attente au football. Là, on a vu les stades, ils étaient vides de chez vides. C'était y a vraiment pas beaucoup d'ambiance. Alors que tu penses, tu le fais en Europe, tu le fais... je pense qu'il peut y avoir vraiment y avoir quelque chose.
Mais là, aux États-Unis.
Donc voilà. Mais c'est vrai que du coup, ça revient dans 4 ans, c'est ça ?
C'est ça. Ils réfléchissent à le faire passer à 2 ans.
Ouais.
Moi, je pense que c'est bien 4 ans.
Ouais, mais même 4 ans, enfin, c'est important. Il y a ça, il y a la Coupe du Monde des clubs, il y a la Coupe du Monde. Il y a l'Euro, il y a les qualifs pour la Coupe du Monde, les qualifs pour l'Euro. Enfin, tout ça en année, franchement, ça y est beaucoup. Surtout l'été, c'est ça. Quand il n'y a pas la Coupe du Monde et quand il n'y a pas l'Euro, ils font les qualifs pour la Coupe du Monde et les qualifs pour l'Euro. Mais là, si on rajoute en plus la Coupe du Monde des clubs tous les 2 ans, ça va,
ouais, ça va être
surcharger les joueurs. Mais... Non, mais... En vrai, c'était une bonne compétition, mais là, on a vu aussi les équipes européennes, elles sont largement au-dessus.
Après, ouais.
C'est ça. Al Hilal, c'est une équipe de sud-américaine.
Botafogo, je crois.
C'est pas l'équipe de
Flamengo.
Flamengo, c'est ça, l'équipe de Thiago Silva, exactement.
Ouais, ils sont arrivés en 8e.
C'est ça, ils ont gagné contre l'Inter Milan, il me semble.
Non, c'est Fluminense qui a gagné contre Inter Milan.
Ah, Fluminense qui a gagné contre Inter Milan, ça. Et ouais. Après, ok. Et Al Hilal, et c'est en quart de finale, c'est Al Hilal qui a affronté Fluminense.
Bah, en quart, on a eu Al Hilal Fluminense. Ouais. Fluminense qui gagne, qui passe en demi et qui perd face à Chelsea.
Du coup, Chelsea, ouais.
Ouais.
Et de l'autre côté, Paris Real, ok. Ça marche.
Bon, c'est tout pour la Coupe du Monde. On va passer au tennis.
Un petit jingle qui fait plaisir. Donc, on va revenir sur les 3 gros tournois majeurs qu'il y a eu en tennis cet été, parce qu'il y en a quand même eu 3.
Ouais.
C'est vrai qu'ils sont très serrés. On parle de l'Open d'Australie qui est en début d'année, mais là, les 3 s'enchaînent vraiment. Donc, évidemment, dans l'ordre chronologique, d'abord Roland Garros, ensuite Wimbledon et après l'US Open. Donc, on va commencer par Roland Garros et au niveau des messieurs. Donc, je vais commencer direct en quart de finale. Du coup, en quart de finale, pour commencer, on avait un match entre Tyler Paul, il me semble, je ne sais plus son prénom, et Carlos Alcaraz, bon, Alcaraz qui a gagné. Et ensuite, de l'autre côté, on avait Musetti contre Tiafoe. Donc là, pareil, c'est que des gros joueurs, mais Musetti l'a emporté. Les 2 autres quarts de finale, c'était Zverev contre Djokovic. Là, un gros match dès les quarts de finale au tennis. Et c'est Djokovic qui l'a emporté 3-7-1, pardon. Ensuite, le dernier quart de finale, c'était Sinner, donc le premier mondial à ce moment-là, contre... Alors là, c'était un petit nouveau, Alexander Bublik.
Connais pas.
Alors, j'ai déjà entendu parler, mais c'est un...
C'est un Hongrois.
C'est un Kazakhstanais.
Ah, Kazakhstanais.
Kazakhstanais, donc j'ai jamais entendu parler. Donc, il a gagné Sinner 3-7-0, c'était assez vif. Hein. C'était 6-1, bon, 7-5, mais 6-0 la dernière. Donc,
ouais.
Il n'avait pas de temps à perdre, le petit Sinner. En demi-finale, on avait là aussi un gros match, Sinner-Djokovic. Est-ce que tu te rappelles du résultat, Mamadou?
Attends, je me rappelle, il me semble que Sinner a perdu et c'était archi serré. En plus, Sinner, il est souvent reconnu pour être assez impassible sur le terrain, à pas trop montrer ses émotions, et puis pour le coup, il avait un peu craqué.
Okay, du coup, pour toi, Djokovic a gagné vraiment de justesse?
Bah, il me semble que c'était ça, non?
T'as tout faux.
Ah, c'est pas ça.
Victoire de Sinner 3-7-0.
Ah bah, je crois que j'ai tout confondu, du coup.
Alors, c'est Sinner. Alors, c'était quand même serré, puisqu'il a gagné 6-4 dans le premier set, 7-5 dans le deuxième set, et puis le troisième set, ça s'est fini au tie-break, mais il a démonté Djokovic.
Donc, c'était l'année dernière que c'était l'inverse, du coup? Ou je sais pas.
Alors, je sais plus.
Parce que je me rappelle d'une vidéo que j'avais vue, je le voyais triste, du coup, j'ai cru que c'était
Djokovic.
Ça.
Bah, non, bah, du coup, là, il a gagné 3-7-0. Alors, même moi, je m'en souvenais plus, mais il a... Ouais.
C'était en juin, ça.
Ça a été... Comment ?
C'était en juin,
c'est ça, ouais. Roland Garros, c'était du 19 mai au 8 juin 2025, donc voilà. Et ensuite, il y avait Musetti contre Alcaraz qui l'a emporté là aussi. Et donc là, on s'attendait. Et puis du coup, la finale, Sinner-Alcaraz.
Ah non, c'est ça que j'ai confondu, c'est Alcaraz qui gagne là, non ?
Exactement,
okay.
C'est Alcaraz qui gagne. Et là, c'était, je crois, le match de l'année, enfin... Je pense, hein, je m'en souviens bien, c'était vraiment
le match. A remonté.
Alors, c'est ça, Sinner était mené 2-7 à 0. Il était vraiment, il était vraiment pas bien, Alcaraz. Et puis je crois même dans le troisième set, donc s'il gagne ce set, Sinner, c'est fini. Ouais. Il a même une balle de match, il me semble.
Sinner, il me semble, ouais.
De 3, du coup, de gagner et de faire 3-7-0. Sauf que là, Alcaraz la sauve et Alcaraz gagne les 3 autres sets. C'était un match, c'était ce match, il était légendaire. Le match légendaire de Roland Garros, il a duré 5-6
heures. Ouais, 5-6
heures,
je me rappelle.
Il a vraiment fini hyper tard. Alors que, ouais, il a commencé à 17 heures, il a dû finir vers les 22 heures, quelque chose comme ça, vraiment. Il a fini super tard. Donc, du coup, ça s'est fini même au tie-break à la fin, le dernier set, il y avait 2 sets partout. Et Alcaraz, il a gagné dans le tie-break 10-2. Franchement, c'était super serré. C'était vraiment le match de l'année au niveau des messieurs. Donc, Alcaraz qui gagne. Roland Garros, il me semble bien qu'il l'avait gagné l'année dernière aussi, je sais plus.
Sûrement.
Il l'avait gagné avec 15.
Ouais, sûrement.
Sa terre battue, c'est vraiment sa surface de prédilection. Ensuite, du côté des filles, donc en quart de finale, on avait la petite française, Loïse Boisson, la grosse surprise.
Ouais, ouais, c'est vrai. Souvent, ouais.
On s'en souvient. Loïse Boisson, on s'en souvient aussi en 8e de finale, avait sorti, il me semble, la 3e joueuse mondiale, je sais plus qui c'était. Mais là, elle sort aussi en quart de finale la 6e joueuse mondiale, Andreeva. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Loïse Boisson, elle est quand même passée par les qualifications. Donc elle sort vraiment de nulle part.
Elle vient de très loin.
Elle vient de extrêmement loin. Et du coup, là, elle se qualifie pour les demi-finales de Roland-Garros en battant plus la 6e mondiale. Ensuite, Coco Gauff, bon, on n'a plus besoin de rappeler qui c'est. Elle a gagné contre quelqu'un de son même pays, c'est Keys, je ne connais pas du tout. Et ensuite... Du coup, on passe aux demi-finales. Donc, Loïse Boisson qui a joué contre Coco Gauff, malheureusement. Bon, là, ça a été assez rapide, vraiment 6-1, 6-2 pour l'américaine Coco Gauff. Donc, là, c'est. Après, il y avait vraiment un écart de niveau, mais déjà, allez, jusqu'en demi-finale.
C'est déjà bien.
C'est ça, mais surtout que.
Elle est jeune, je crois, non ?
Loïse Boisson, je ne sais plus quel âge elle a, mais ouais, elle doit vraiment être jeune. Franchement, je n'en ai jamais entendu parler. T'en as jamais entendu parler, toi aussi, même.
Non plus.
Vraiment, elle vient de nulle part. Donc là, dommage, déjà, c'est demi-finale, c'est extraordinaire. Et d'autre côté, on avait aussi les deux monstres, hein, Sabalenka contre Iga Świątek. Iga Świątek, qui depuis peut-être un ou deux ans, gagne de moins en moins.
Ouais, elle est sur la fin, là.
Elle est sur la fin.
Bientôt finito.
Et là, Świątek, ouais, qui perd 2-7-1 contre Sabalenka. Bon, Sabalenka, c'est pas n'importe qui non plus, hein, c'était la première joueuse mondiale. Et du coup, on avait la finale, pour moi, c'est un peu aussi le Alcaraz-Sinner du côté des filles. Sabalenka contre Coco Gauff. Et c'était un match ultra serré. Sabalenka qui a gagné le premier set au tie-break. Et après, Coco Gauff qui a fait 6-2, 6-4. Donc, victoire de Coco Gauff, l'américaine, à Roland-Garros, qui est aussi sa terre. Ensuite, on avait Wimbledon. Donc là, cette fois, c'est sur gazon. J'allais dire sur herbe, c'est sur gazon. Donc, je vais les demi-finales. Il y avait Sinner contre Djokovic. Donc, victoire de Yannick Sinner, encore une fois, contre Djokovic. 3-7-0.
Djokovic, c'est bientôt.
Alors, faudrait peut-être parler avec Djokovic fait des mauvaises perfs. Pareil, on va en parler.
Il a 39 ans là.
Djokovic, ouais, il doit être vraiment sur la fin. Et je sais plus quel âge il a, mais il doit être vraiment sur la fin. Bon, de toute façon, il était dans la même génération que les Nadal et Federer, exactement. Donc, Sinner, là, on voit là quand même la nouvelle génération qui arrive. Hein, Sinner, Alcaraz, etc., qui viennent pour reprendre le rythme. Donc, Sinner a gagné contre Djokovic 6-3, 6-3, 6-4. Donc là aussi, c'était assez clean. Et de l'autre côté, on avait Taylor Fritz contre Carlos Alcaraz, encore une fois. Qui c'est qui a gagné ?
Alcaraz.
3 jeux à 1, pardon. Parce que Fritz a quand même gagné un set. Et la finale. Donc là, deuxième round entre Sinner et Alcaraz après Roland Garros. Qui a gagné ?
Sinner, il me semble.
Sinner, exactement. Ouais. Sinner, qui, entre guillemets, vient égaliser au nombre de finales un partout.
Revient.
Ah ouais, c'est vraiment les deux protagonistes. Donc Alcaraz pourtant a gagné le premier set. Donc là c'est l'inverse, il a gagné le premier set 6-4. Sauf que c'est pas compliqué le match, les trois autres c'est gagné par Sinner et c'est 6-4, 6-4, 6-4. Donc là comme ça, c'est fait. Donc du côté garçon, c'est Sinner qui l'emporte. Du côté des filles, on avait Świątek donc qui était encore là contre alors là je connaissais pas du tout Bencic, une joueuse suisse. C'était assez expéditif, hein. Victoire de Świątek 6-2, 6-0. Et de l'autre côté, on avait Sabalenka, donc on peut dire qu'il va gagner, contre Anisimova, c'est une américaine. Et c'est Anisimova qui a remporté.
Ça me tient un truc, ce nom.
Anisimova. Elle était quand même 13e joueuse mondiale dans le classement ATP, donc c'était quand même pas n'importe qui, même si je ne connaissais pas. Et du coup, c'est elle qui l'a remporté 6-4, 4-6 et 6-4, du coup. Et en finale, donc, il y avait une Świątek contre Anisimova. Et ben on peut dire que Świątek elle est cramée et qu'elle ne vaut plus rien. Elle a gagné et devine combien elle a gagné. Je viens d'avoir savoir, quand j'ai vu ça, j'étais.
Il y a un grand écart.
Ah, il y a un écart. Un petit résultat entre Świątek et Anisimova, ouais. Non ?
Attends. Pas.
C'est vraiment... Mais je pense que tu peux pas faire pire. Tu peux pas faire mieux.
Ah ouais ?
Ouais, mais vraiment.
6-0 ?
6-0, 6-0. Ah ouais. La finale totalement déséquilibrée entre Świątek et Anisimova. 6-0, 6-0 pour Świątek. La pauvre Anisimova, je pense qu'elle a dû passer une finale.
Ah, mais c'est chaud quand même. Hein.
Entre 6-0, 6-0. Donc voilà, donc on peut dire qu'elle est cramée. Elle a quand même gagné Wimbledon, mais je crois que c'est peut-être son terrain favori. Wimbledon, Świątek, je sais plus.
Ça fait mal. Hein.
Ah, ça fait mal quand tu prends 6-0 comme ça. Et ensuite, on avait donc l'US Open qui s'est terminé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Ça s'est terminé le 7 septembre. C'était ce week-end. C'était ce week-end la finale. Exactement, c'était ce
ouais,
week-end.
C'est, ouais. Oui, c'est ça. Ouais.
C'est ce week-end.
Il y a 5 jours.
C'est ça. Donc, première de finale, il y avait Djokovic encore une fois contre Alcaraz. Donc là, il ne jouait pas contre Sinner, il jouait contre Alcaraz. Bon, l'autre gros morceau du classement ATP. Bon, pareil, ça ne change pas. Hein. 3-7-0 encore. Djokovic, là, qui redescend 7e mondial quand même après ses 3 tournois. Donc pareil, là, Alcaraz qui a gagné 6-4, 7-6, du coup, avec un tie-break 7-4 dans le deuxième set et 6-2 au troisième set. Donc Alcaraz en finale, et à ton avis, qui va le rejoindre en finale, Alcaraz ?
Sinner encore.
Et Sinner encore une fois, qui a battu, alors là, une petite surprise, Auger Aliassim, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. Donc la finale, on va dire, dernier round entre Sinner et Alcaraz. J'ai regardé un peu le match, ça s'envoyait des mines de chaque côté, ça s'envoyait des parpaings. Et c'est Alcaraz ouais, qui l'a emporté, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, donc c'est quand même une victoire assez clean. De Carlos Alcaraz du coup qui gagne entre guillemets 2-1, mais je sais plus qui avait gagné le c'est comment ça s'appelle le premier tournoi l'Open d'Australie.
Ah oui.
En début d'année,
j'ai pas suivi ça,
parce que vraiment c'est vraiment les deux gros monstres Sinner et Alcaraz au début de cette année. Ils ont vraiment toujours que eux en finale, ça change tout le temps, un coup c'est l'autre qui gagne. Et c'était Sinner qui avait gagné en Open d'Australie, c'est ça. Mais sauf qu'il n'avait pas gagné contre Carlos Alcaraz, il avait gagné contre Alexander Zverev. Et Zverev qui avait battu Djokovic en plus en demi-finale, donc Alcaraz qui était vraiment pas là. Ouais, il avait perdu contre Djokovic en quart de finale, Carlos Alcaraz. Donc voilà, bon, en tout cas du coup ça fait 2-2, c'est vraiment les deux étoiles montantes de ce sport au tennis. Exactement. Donc voilà, et en ce qui concerne les filles du coup... On avait demi-finale Osaka. Donc, ouais, ça me dit quelque chose, Osaka. Mais
ouais, compliqué. Je me rappelle Naomi Osaka.
Ouais, exactement.
Il y a longtemps, elle avait joué contre Serena Williams, je crois.
C'est ça, exactement. C'est Osaka, quand même, une légende de ce sport au tennis. Qui a joué contre Anisimova, là aussi, la petite surprise qui était à Wimbledon. Et c'est Anisimova encore qui a gagné. Donc, 2-7-1. Et de l'autre, on avait Sabalenka contre Pegula, l'américaine. Et ben, son public, ça l'a pas suffi puisque Sabalenka l'a remporté. Et du coup, on avait la finale samedi entre Sabalenka et Anisimova. Et c'est Sabalenka qui l'a remporté. Donc là aussi, on peut dire chez les filles, ça se joue entre Sabalenka et Coco Gauff, même si je mettrais un petit avantage sur Sabalenka. Et du coup, chez les garçons, ça se joue peut-être entre Alcaraz et Sinner. Pour toi, c'est qui le meilleur de chaque catégorie ?
Alcaraz et Sinner ?
Ouais, Alcaraz et Sinner, et puis pareil, Sabalenka et Coco Gauff.
Bah, j'ai l'impression que Sinner, actuellement, je pense qu'il est peut-être un poil meilleur, mais peut-être qu'à l'avenir, Alcaraz, il va le prendre le dessus.
Ouais.
Et puis sur Coco Gauff et puis Sabalenka, là je sais pas, j'ai pas...
Ça, moi je dirais Sabalenka parce qu'elle est vraiment très très forte, elle gagne beaucoup de tournois. Et ouais, et j'ai déjà vu passer une stat Alcaraz aussi. Je crois qu'il devient il va devenir peut-être l'un des plus jeunes à gagner. S'il avait gagné l'US Open, enfin il a gagné l'US Open, mais le prochain tournoi s'il le gagne, ça donc l'Open Australia l'année prochaine, je crois que c'est le plus jeune joueur à avoir le plus de tournois de Grand Chelem. Donc il me semble, j'ai déjà entendu ça. Donc voilà, déjà Alcaraz qui suit bien la relève de Rafael Nadal. Donc, ouais. Voilà, pour le tennis.
On va passer à la Coupe du Monde. Nouveau jingle pour la Coupe du Monde 2026, ouais. Là, il est pas mal. J'espère qu'on l'entendra beaucoup l'année prochaine.
Je le connaissais même pas, ce jingle.
Moi non
de la
plus,
Coupe du Monde.
J'ai découvert ce matin.
C'est pas mal.
Il est pas mal. Même si celui de 2022, il sera.
Celui de 2022, avec le Qatar, la musique était vraiment bien.
Franchement, elle est incroyable.
Les musiques, les génériques à chaque fois, vraiment, c'était super.
On va parler des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Alors, il faut savoir que ça se déroule par zone. Donc, zone Europe, Afrique, Amérique du Sud, Asie. Océanie, CONACAF, c'est l'Amérique du Nord.
Il me semble peut-être, ouais.
CONACAF, et du coup, l'Asie. Voilà. Je vais parler des gros matchs parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je commençais avec le 11-1 de la Norvège face à la Moldavie, oh, avec Erling Haaland qui met un quintuplé et qui s'excuse au goal à chaque but. Ça, c'était vraiment, vraiment
ça,
spécial.
Ça veut dire excuse-moi, mais je suis trop fort pour toi. Là, j'ai mis 5 buts.
Il s'excuse, il lui dit désolé, mais il faut qu'on mette un maximum de buts pour la différence de buts.
11-1, c'est quand même. Après, en face, c'est la Moldavie.
Ouais, mais.
Mais 11-1, faut quand même le faire, ouais.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de score comme ça, je pense. Hein.
Ouais. Et je me souviens aussi, Haaland qui a mis un quintuplé, je sais pas si tu te rappelles, en Ligue des Champions.
En Ligue des Champions, en phase de groupe, phase de poule.
Ouais, ou peut-être en huitième, je sais plus, contre l'Inter, il me semble.
L'Inter, ils ont connu.
Il était City, il avait mis un quintuplé. Je me souviens, Guardiola, il avait fait polémique parce que Guardiola l'avait sorti pour pas qu'il batte le record de Messi. Je sais pas si t'avais déjà eu cette histoire.
J'ai pas trop entendu ça, mais ça m'étonnerait pas.
C'était il y a un, deux ans, et puis Guardiola qui avait sorti à Londres pour pas qu'il batte le record de Messi, qui était justement de plus de buts dans un match de Ligue des Champions, quelque chose comme ça. Ça avait fait polémique.
Un autre match avec un grand score, l'Angleterre face à la Serbie, 5-0. Ça me rappelle un match de Ligue des Champions, ça.
Chut, allez, ensuite, du coup, prochain match.
France-Islande 2-1, une victoire difficile de la France, avec un but d'Mbappé et de Barcola, je crois.
Exactement. Ça, et c'était quand même un match compliqué. Bah on était mené 1-0, il me semble.
On
perdait 1-0. Et franchement, j'ai regardé le match. Le jeu était vraiment. Dans le jeu de l'équipe de France, c'était vraiment pas ça. J'ai trouvé vraiment pas bon. Olise qui fait la boulette, je crois, sur le premier but.
J'ai pas vu le match.
Ah, qui la redonne aux joueurs islandais. C'est Olise qui fait ça qui donne le premier but à l'Islande. Mais après, on se rattrape bien. Et Tchouaméni qui prend un rouge à la fin.
Oui, il prend un rouge. Ouais, ça, j'ai vu
c'était,
ça.
C'était mérité. Il l'a. Là, le pied, là, il aurait pu lui casser le tibia. Mais.
Donc la France qui est première de son classement, ça c'est bien ça. J'espère qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde, sinon...
Parce qu'il reste des matchs encore
Normalement, oui, il en reste pas mal. Bah, il y a 6 journées.
Ah oui,
6 journées. Donc il nous reste 4 matchs.
Ah oui, il n'y a eu que 2 journées pour l'instant.
Ouais.
Ah oui, c'est les deux premières, ok.
Donc prochain match de la France, c'est le 10 octobre face à l'Azerbaïdjan, puis après le 13 octobre face à l'Islande encore. Et en novembre, on répète encore, France-Ukraine, puis France-Azerbaïdjan.
Il ne faudrait pas quand même des trains internationaux, elles arrivent quand même assez souvent, les trains internationaux. Tous les mois, à chaque fois, c'est long. Enfin, autant, au pire, faire vraiment un mois complet où c'est vraiment que la train internationale et là, tu fais les matchs pour la qualif de la Coupe du Monde. Et après, tu les vraiment. Parce que là, c'est saccadé, là, ça fait hop, là, on part sur un mois de 3 semaines de Ligue 1, ou enfin, voilà,
les championnats nationaux,
c'est ça. Hop, après, les trains internationales, 3 semaines. Enfin, moi, je trouverais plus simple de réunir tout.
Pour qu'on en sait un peu plus, ouais.
Exactement, mais en plus les matchs pour les joueurs aussi, là, ils enchaînent.
Hein. Ouais, les voyages et tout. Là.
Exactement.
Un autre match qui est intéressant, l'Arménie qui gagne face à l'Irlande, c'est plutôt une grosse surprise parce qu'ils avaient gagné, ils avaient perdu il y a 3 jours face au Portugal 5-0. Donc là, l'Arménie qui est deuxième du classement, peut-être qu'on peut avoir.
L'Arménie à la Coupe du Monde, oh là, ce serait légendaire.
Les Arméniens.
J'imagine qu'ils n'ont jamais été qualifiés à la Coupe du Monde.
Je ne pense pas.
L'Arménie en Coupe du Monde, ça serait pas mal. Mais d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle aussi de la format de la Coupe du Monde. Ça n'a pas changé maintenant. C'est pas 40.
Il y a plus d'équipes, plus de matchs, plus d'argent.
C'est ça. Ouais, c'est pas ça. De toute façon, c'est toujours.
Et aussi, attention à l'argent. C'est plus étiré. Il y a 3 pays. En plus, il y a 3 pays qui sont immenses, États-Unis, Canada et Mexique.
Ouais, ça se joue là-bas.
Donc, il y aura des voyages en avion, du coup.
C'est ça. Mais après, c'est ça. Il y avait 32, il me semble. Genre, c'était des 8
poules.
C'était 8 poules de 4 équipes dans chaque poule. Donc, c'était 32. Et ça, maintenant, c'est 48. Et je crois que c'est 5 par poule, il me semble. Il me semble que c'est 5 et un truc, quelque chose comme ça. 5 par poule. Ou alors ils font 12 poules.
Il y a 12 groupes.
Ouais, voilà, 12 groupes de 4.
Ouais, voilà, pour la phase de poule. Après, il y a des 16e de finale, nouveauté.
C'est ça, ouais, c'est ça, 16e de finale maintenant.
Donc, logiquement, c'est un peu plus difficile de la gagner maintenant, vu qu'il y a plus de matchs.
Encore plus de matchs, plus de. Ouais. Toujours, l'argent.
L'Argentine est qualifiée pour la Coupe du Monde. On peut noter le dernier match de Messi en Argentine, hein, pas avec la sélection. Il y a eu des petites cérémonies un peu.
J'ai vu ça.
Je pense qu'on peut passer du coup au Tour de France.
C'est parti.
Allez, c'est parti, le Tour de France. Voilà. Alors, je vais commencer par vous expliquer le fonctionnement du Tour de France, parce qu'on a tendance à confondre un peu, à oublier, à pas vraiment savoir. Donc le Tour de France, qu'est-ce que c'est ? C'est la plus grande course cycliste au monde. Chaque année, début juillet, pendant environ 3-4 semaines, environ 180-200 coureurs parcourent la France sur environ 3500 km. Et donc c'est réparti en 21 étapes. Alors ces étapes, elles ne sont pas toutes les mêmes. Il y en a certaines qui sont plates pour les sprinteurs, d'autres qui sont vallonnées, ou bien d'autres qui sont en haute montagne. Il y a aussi des contre-la-montre où chaque coureur roule seul face au chronomètre. Et il faut savoir aussi qu'il y a deux journées qui sont prévues pour que les coureurs puissent se reposer un peu. Alors le but principal du Tour de France, c'est le classement global général. Il faut faire le moins de temps possible sur l'ensemble des étapes pour porter le fameux maillot jaune avec LCL là.
Exactement, alors, le sponsor.
Ouais, donc c'est lui qui sera le vainqueur final du Tour. Mais il y a aussi d'autres classements. Le maillot vert qui récompense le meilleur sprinteur grâce aux points qui sont gagnés à l'arrivée des étapes et dans les sprints intermédiaires. Il y a le maillot à poids rouge qui récompense du coup le meilleur grimpeur, celui qui est dans les hautes montagnes. Et le maillot blanc qui revient au meilleur jeune de moins de 25 ans.
Ça, 25 ans, c'est quand même le meilleur jeune. 25 ans, ça commence quand même à faire... Bon, est-ce que je me suis posé la question, mais peut-être réduire un peu l'âge, parce qu'on voit que, par exemple, 25 ans, bon, c'est encore jeune, mais pour moi, c'est 25 ans, tu commences à être...
être ton prime.
À être âgé, c'est ça. Donc moi, j'aurais réduit un peu le maillot blanc.
Bon. Et il y a aussi un classement par équipe où, du coup, on additionne les temps des coureurs d'une même équipe, simplement.
Il me semble que c'est les 4 premiers, il me semble. Mais je crois que c'est par étape, c'est les 3 premiers. C'est les 4 premiers. C'est que les 4 premiers qui sont comptés. C'est ça. Et après, mais ça peut être tout le monde, mais l'étape, c'est les 4 premiers, il me semble. C'est quelque chose comme ça.
Alors, on va passer du coup au résultat. Donc, pour le maillot jaune, c'est qui c'est ?
Alors, attends, c'est moi, je m'en souviens bien, c'est Tadej Pogacar.
Ouais, ah, bon. Pogacar qui l'emporte. Il remporte du coup son 4e Tour de France. Ouais. Le 2e, du coup, c'était.
Jonas Vingegaard, évidemment.
Ouais, avec 4 minutes et 24 secondes de retard.
Et le 3e, je m'en souviens, il y avait Primoz Roglic qui est pas loin, je crois qu'il a dû finir 5e, Roglic, quelque chose comme ça. Mais le 3e, je sais plus, c'est un nouveau, franchement, je connaissais pas.
Florian Lipowitz, c'est ça, exactement. Environ 11 minutes, du coup, derrière Pogacar.
Enfin, il faut qu'on en parle, il n'y a pas eu trop. J'ai regardé moi le Tour de France, alors j'ai pas regardé le début, mais j'ai plus regardé la fin. Il n'y avait pas trop de suspense que ça. Enfin, c'était pas le Tour de France le plus fou de l'histoire. Ouais. Franchement, on s'attendait des fois à des attaques de Vingegaard. Bon, il a tenté, mais Pogacar, il restait toujours dans sa roue et tout. Ouais. Trop fort, franchement. C'est pour ça qu'il y a même eu, je ne sais pas si tu as vu, des polémiques encore sur le fait qu'il soit peut-être dopé ou pas.
Ah, comme d'hab.
Ça, c'est censé les polémiques du Tour de France, mais bon.
Alors, les autres classements, le maillot vert, du coup, à points, on a Jonathan Milan, un Italien qui gagne. Le maillot à poids, il est remporté par...
C'est pas le français ?
Non. Pogacar aussi.
Ah, Pogacar aussi, non.
Et le maillot blanc, du coup.
C'est. Le maillot blanc, je sais pas du tout.
Le 3e.
C'est Lipowitz, alors.
Ouais, c'est ça.
Lipowitz.
Donc c'était cool, hein. En plus, il est passé à Châtellerault, le Tour de France, je suis parti voir.
Ah ouais, le Tour de France garçon.
Ouais, ouais.
Parce qu'il y avait eu le Tour de France fille qui est
Fille aussi, au Futuroscope, ouais.
Exactement. Ouais, il y avait une étape au Futuroscope, il partait du Futuroscope.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est ça. Mais.
C'était sympa.
Mais je voulais dire un truc. Ah oui, c'était un Français, à un moment, qui était devant au classement du maillot à poche. Lenny Martinez, c'est ça.
Ouais.
C'était Lenny Martinez qui était devant au classement à points. Moi, il essayait de le garder, mais sauf qu'il a un peu. Bah, déjà, je crois qu'il a subi une pénalité parce qu'il y avait un bidon porté. Pour ceux qui ne savent pas, un bidon porté, c'est en fait quand la voiture du directeur sportif elle vient pour donner le bidon au coureur, surtout en montée, il se tient au bidon pour s'aider un peu pour monter.
Pour moins,
voilà.
moins dépenser.
Hop là, hop, tu montes un peu comme ça pour suivre les autres. Donc voilà, je crois qu'il avait été pénalisé pour ça, mais il a failli nous faire rêver.
C'est cool le Tour de France, hein, je trouve. Moi, je trouve que c'est un bon événement. Caravane et tout là.
Ouais, c'est ça. En fait, surtout pour moi, le Tour de France, ça réunit tout le monde parce qu'il y a des sports, tu vois, ça réunit que les jeunes, par exemple, les hommes ou que les femmes. Enfin, c'est pas pour créer des stéréotypes, mais c'est vraiment ça. Et là, le Tour de France, ça réunit les enfants, les personnes âgées, les femmes.
Ouais, tu vas en famille et tout.
C'est ça, c'est ça. C'est vraiment super. Et puis je connais, tu vois, sur France 2, comment il s'appelle, celui qui présente les monuments là.
Sébastien Verne.
Mais celui qui est sur le Tour de France là. Franck Ferrand.
Oui, Franck Ferrand.
Franck Ferrand, c'est ça qui présente des trucs des monuments. Et je connais par exemple plein de personnes qui regardent pas le Tour de France aussi pour voir ça, pour voir les paysages et tout. Donc franchement, c'est super. Le Tour de France, c'est vraiment super mondial.
Oui. Quand on passe devant un monument historique, il nous fait une petite.
Ouais, c'est ça, il nous fait un petit truc. Bon, pour nous, ceux qui veulent voir du sport, c'est bof, mais pour les gens, c'est pas ça, avec ça. Ouais.
On va passer et finir du coup sur la Formule 1.
Exactement. Allez. Donc, alors, il y a eu beaucoup de Grands Prix de Formule 1 durant l'été. Donc après, je vais aussi vous présenter la MotoGP, qui a quand même des choses à dire. Donc pour commencer, je vais vous parler des trois derniers Grands Prix de Formule 1. Donc le premier, c'est le Grand Prix de Hongrie. Ça s'est déroulé le 3 août, donc c'est pas si vieux que ça. Donc c'était, à ton avis, les McLaren qui ont encore fini les deux premières. Norris premier et Piastri deuxième avec seulement 6 dixièmes d'écart. C'est vraiment rien du tout.
Je pense que Marina l'aurait bien parlé.
Hein. Marina l'aurait bien parlé, elle serait contente. Après, en troisième, on a George Russell, mais 21 secondes derrière. On voit quand même l'écart immense entre McLaren et les autres. 21 secondes, c'est énorme. Ensuite, encore derrière, on a 22 secondes, on a Charles Leclerc avec sa Ferrari qui finit quatrième. Ensuite, encore plus loin, à 15 secondes, on a Fernando Alonso. Puis après, on a vraiment, le classement est assez original, puisqu'on a Bortoleto, donc le rookie qui est chez Sauber, qui est sixième. Ensuite, on a septième, on a Lance Stroll qui est chez Aston Martin, le septième. Huitième, on a Lawson qui est chez Racing Bulls. Neuvième, on a Verstappen qui est neuvième.
Il est un peu bas, non ?
Mais je sais pas si c'était sur ce Grand Prix ou pas, il avait pris une pénalité, Verstappen. Mais il finit neuvième. Puis après ça, Antonelli dixième, Hadjar onzième, et à noter Hamilton douzième. On a vu Carlos Sainz quatorzième, du Pierre Gasly malheureusement 19e. Donc voilà. Bon, du coup, comme d'hab, c'est les deux McLaren qui l'ont remporté. À voir si c'était pareil lors du Grand Prix des Pays-Bas qui s'est déroulé, pas ce week-end, mais le week-end juste avant.
Ouais.
Bon, c'est encore une McLaren qui a gagné. Cette fois, c'est pas Lando Norris, c'est Oscar Piastri qui l'a remporté devant Max Verstappen.
Ah oui, j'ai vu ça, ouais.
Ouais, devant Max Verstappen, donc dans le pays de Max Verstappen, puisque c'était aux Pays-Bas. Ça va, c'était assez serré, une seconde, deux. Puis en plus, c'était des fois, le Grand Prix, j'ai regardé un petit peu, il était assez bien, puisque des fois, il pouvait pleuvoir et tout, donc ça changeait les stratégies.
Ah ouais.
Troisième, est-ce que tu as suivi ça ? Qui a fini troisième ?
Le troisième, j'ai pas du tout suivi le podium.
Parce qu'en fait, du coup, durant le Grand Prix, bon, c'était qui partait en deux premiers, c'était Norris et Piastri, évidemment. Et juste derrière, il y avait Verstappen, sauf que du coup, il était 20 tours de la fin. Le classement, c'était Norris, Piastri, Verstappen et Hadjar quatrième. Parce que oui, lors des qualifications qui s'étaient déroulées le jour d'avant, Hadjar avait fait quatrième des qualifications. Donc franchement, il faudrait parler de ce pilote. Franchement, rookie, il démonte tout depuis qu'il est en F1. En tout cas, 20-15 tours de la fin, c'est Norris qui crache. Il a un problème de boîte de vitesse, quelque chose comme ça, sur sa voiture. Du coup, il est obligé d'abandonner. Du coup, Piastri repart premier, Verstappen deuxième et Hadjar troisième. Et il réussit à tenir la pression de George Russell. Franchement, super. Je me souviens, franchement, ce qu'avaient dit les commentateurs sur Canal+, que pourtant un rookie, il pouvait avoir la pression. Par exemple, si on veut le doubler, je vais direct à l'intérieur pour pas qu'on le double. Mais lui, il restait focus, il est toujours resté à l'extérieur, freiné un peu plus tard. Franchement, super Hadjar. Donc, il finit troisième, donc derrière Verstappen et Piastri. Et je sais pas si tu as vu cette petite image. Moi, je l'ai vu passer. Hadjar qui casse son trophée à la fin.
Ah, je crois que je l'ai vu, oui.
Je crois que tu l'as vu. Il veut célébrer. Et c'est, de toute façon, c'est fragile.
Il fait tomber, ouais.
Je sais plus qui avait fait ça avant. C'était Norris, il me semble.
Je crois, Norris.
Qui
Norris.
Qui avait cassé son trophée. Et il le casse et il fait « Oh, c'est pas grave ». Il
a gagné, c'est bon.
Ah ouais, de toute façon, ce pilote, c'est un fou. Donc, il finit troisième, Hadjar, super performance. Qui ramène 15 points à son équipe Racing Bulls. Donc, franchement, c'est super. Et à noter, c'est juste pour dire ça, hein, mais Tsunoda, dixième. Donc, Red Bull, je vous appelle. Red Bull, si vous m'entendez. Peut-être voir Tsunoda, Hadjar, voilà. Hadjar fait des meilleures performances. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'année prochaine, sûrement, peut-être, enfin, j'espère que Hadjar ira chez Red Bull parce que franchement, il fait des super performances. À noter que Ocon a fini malheureusement à la porte des points. Il a fini 11e et Gasly, c'est un peu moins bien. 16e, mais je ne sais pas si tu as vu ça, cette information. Il prolonge avec Alpine jusqu'en 2028 ou 29, quelque chose comme ça.
Ok, je ne savais pas.
Donc, ça, c'est super. Ensuite, on passe au Grand Prix qui s'est déroulé justement ce week-end. Alors, le Grand Prix, il était nul à regarder, apparemment. Et franchement, quand je vois les écarts de temps, je me dis que franchement, ils ont peut-être pas tort.
C'était prévisible.
Verstappen premier. Donc, Verstappen premier, mais 19 secondes d'écart avec Norris.
Ah, le deuxième ?
Ouais,
ah,
avec c'est le beaucoup deuxième, quand même, hein. 19 secondes d'écart. Et pourtant, c'est avec Norris. On s'attendait tous à voir les McLaren devant et tout. Et non, c'est donc Verstappen qui gagne devant Norris. Ensuite, troisième position, on a Piastri. Quatrième, Leclerc, qui malheureusement n'arrive pas à monter sur le podium devant les Tifosi à Monza en Italie. Ensuite, on a les Russell et Hamilton, les deux Britanniques, 5 et 6e. Et on peut voir Hadjar qui partait dernier pour au changement de boîte de vitesse ou de moteur, je ne sais plus. Et qui arrive à remonter 10e, donc à marquer un point. Hadjar trop fort, qui finit notamment devant Sainz, devant les deux Français, malheureusement, 15 et 16e, Ocon et Gasly. Donc, on va faire un petit point classement général, du coup. Et pour toi, qui est devant Mamadou au classement général?
Déjà, McLaren, du coup.
McLaren, mais au niveau des pilotes. Ah. Exactement. Piastri qui est devant avec 324 points. Deuxième, on a Norris avec 293 points. Un peu plus loin, on a Verstappen, 230 points. Ensuite, Russell, Leclerc, Hamilton. Et après, on a des noms. Hadjar, 9e du classement général.
C'est pas mal, non?
C'est vraiment bien. Hadjar, 9e. Ensuite, on a les Français aussi, 13e et 14e. Ocon et Gasly.
Il est combien, Charles Leclerc?
Charles Leclerc, il est 5e. Il est derrière Russell. Donc voilà. Et à noter, je suis en train de chercher Tsunoda. Tsunoda, il a 12 points. Il est 19e du classement pilote. Donc à noter que c'est sur 20. 21, c'est marqué parce qu'il y a eu un pilote qui est remplacé. Mais Tsunoda qui est conduit dans une Red Bull qui est 19e et Hadjar qui est chez Racing Bulls qui est 9e, peut-être se poser des questions. Donc voilà, donc ça c'est fait pour la Formule 1. Le prochain Grand Prix, ce sera le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ce sera le 21 septembre, donc c'est pas ce week-end-là, mais le week-end prochain.
Ouais.
Grand Prix d'Azerbaïdjan. Donc là, on va passer à la MotoGP. Donc la MotoGP, là aussi, je vais vous dire les trois derniers Grands Prix qui se sont déroulés. Donc en Autriche, c'est Marc Marquez qui l'a emporté devant Aldeguer. Aldeguer, il me semble, c'est un rookie. Ensuite, troisième, Bezzeki. Donc là, pareil, hein, franchement, les nationalités qui dominent en MotoGP, c'est vraiment les Espagnols, les Italiens. Vraiment, il n'y a que ça. Donc là, Marquez qui l'emporte en Autriche. Ensuite, en Hongrie, qui l'emporte encore une fois?
Je connais pas.
Marc Marquez.
Encore un Espagnol.
Encore une fois, Marc Marquez devant Pedro Acosta. Un Espagnol. Troisième, Bezzeki. Un Italien. Quatrième, Martin, Espagnol. Les deux autres, c'est des Italiens. Donc c'est pour dire
où sont les Français, là?
Où sont les Français? Eh bien, là, lors de ce Grand Prix... en Hongrie, c'est Quartararo, il a fini 10e et Zarco 17e. Franchement, on se souvient tous du sacre de Quartararo, mais maintenant, ça commence un peu à dater. Il n'a pas une très bonne machine, on ne va pas se mentir. Et ensuite, là, Grand Prix de Catalogne, c'est encore une fois Marquez, mais ce n'est pas Marc Marquez, c'est son frère Alex Marquez qui l'emporte.
Ils sont deux carrément.
Ils sont deux et ils sont dans la même équipe. Voilà, donc c'est Alex Marquez qui l'emporte et ensuite c'est Marc Marquez juste derrière. Donc au classement général de moto, on a premier Marc Marquez avec 487 points et combien de deuxième? C'est son frère Alex Marquez mais avec 305 points.
Ah oui,
il y a 182 points d'écart entre Marc Marquez et Alex Marquez. C'est tout simplement énorme, surtout que là on s'approche à peu près, on est à la mi après des mi-course, enfin mi-saison. Il reste plus beaucoup de Grand Prix. Le prochain, c'est le Grand Prix de Saint-Marin. C'est ce week-end. Donc voilà. Et après, ouais, ça, il ne reste plus beaucoup de Grand Prix. Il en restera après celui-là. Il en restera 6. Donc là, Marc Marquez, ça sent bon pour qu'il soit, il me semble, une 7e ou 8e fois champion du monde de moto. Franchement, la légende en moto, Marc Marquez.
C'est le GOAT.
Ah, c'est vraiment le GOAT. C'est un peu le Lewis Hamilton, Michael Schumacher en moto. Donc voilà. C'est tout pour les sports.
Eh bien, merci beaucoup, Clément. On a terminé pour aujourd'hui. C'était un bon retour, là, petit récapitulatif.
Un bon retour de Delta Sport. Ça m'avait manqué, en vrai, 2-3 mois sans Delta Sport. Et j'espère qu'on va recruter quand même des petits nouveaux, là.
Ouais, on va aller voir des petits secondes, des petites premières.
Exactement.
Pour qu'ils viennent essayer, au moins, une fois.
C'est ça. Moi, j'en souviendrai, hein, ma première et tout. C'était super. Voilà.
Bon, sur ce, on vous dit bon appétit si vous n'avez pas encore mangé.
Oui.
Bon après-midi. On se retrouve vendredi prochain à midi. Merci. Oui.
Merci d'avoir écouté. Et puis à la prochaine. Salut.
C'est Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'avoue
des intentions, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme ça. Écoutez, c'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.